Alors, on en arrive là à ce texte de Espagna Libre. Et j'ai mis ici en espagnol le premier texte qui apparaît donc. Ça, c'est la première édition. Dans la fiche, sur la fiche, vous avez la photo de la réédition, donc, qui s'est faite en 2014, la réédition. 14-2015, excusez-moi, je ne sais plus. Et la première édition que j'ai là dans la main, si vous voulez la voir après, on peut la faire passer si vous voulez, est de 1966. Donc c'est édité au Mexique. Et à cette époque-là, au Mexique, la personne d'ailleurs qui fonde ces éditions, qui s'appelle Editores Mexicanos Unidos, S.A., s'appelle Fidel Miró. Ben, Fidel Miró, c'était un autre exilé espagnol qui s'était exilé au Mexique, d'accord? Mais on le voyait souvent à la maison, il venait. Fidel Miró, donc, le fondateur de cette maison d'édition. Et voilà, donc, le premier texte choisi par Juanel, je parle après de Juanel, donc l'auteur de la sélection de textes. C'est celui-ci de Combat. Hein, vous savez que Camus avait écrit dans Combat, le journal, et qu'il en devient le rédacteur en chef, d'ailleurs. Et voilà, ce texte du 7 septembre 1944, il dit Esta guerra europea, puisqu'on est en plein dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est la fin, mais enfin, on y est encore plein. Esta guerra europea que comenzó en España hace 8 años no podrá terminarse sin España. Y muchos de nosotros desde 1938 jamás hemos pensado en ese país fraternal sin experimentar una secreta vergüenza. Voilà ce qu'il ressent face à cette situation de l'Espagne, de la honte, hein, la vergüenza. C'est forcément des idéaux partagés, comme je dis ici, hein, quant à l'être humain, avec tous les libertaires et les républicains. Ils ont honte de ce pays qui a piétiné leur démocratie, en fait, hein, et leur liberté. Ce sentiment de honte partagé. Voilà, ça c'est le premier texte et je pense qu'il donne bien le ton de tous ces textes. Et l'aventure est la suivante. Donc, dans la réédition qui a été faite par les éditions La Linterna Sorda, hein, on le voit bien sur l'affiche, c'est La Linterna Sorda. Et il y a une présentation, une introduction faite par Dalia Álvarez, qui est en fait la petite fille de Juan Manuel Molina, de Juanel. D'accord? Et elle est actuellement professeure à l'université d'Oviedo, Dalia Álvarez, de littérature française aussi. Sa thèse était sur Céline, mais voilà, elle est vingtiémiste aussi en tout cas. Et bon, elle explique des choses très touchantes, comme par exemple, ben oui, son grand-père vivait comme un exilé à Paris, dans la banlieue parisienne, il vivait. Et donc, il travaillait à ses textes, hein, à ses écritures, hein, ben, quand il pouvait, ça veut dire le soir généralement, quand il revenait du boulot, ou alors quand il avait eu un travail de concierge d'un stade, ben, dans le stade, dans la loge du concierge, il arrivait à lire et à écrire aussi. Mais bon, c'était pas facile pour lui d'arriver à écrire ce qui vraiment l'intéressait. Et ça avait été quelqu'un, ce qu'on appelle un idéologue important des libertaires, Juan Manuel Molina. Donc voilà, il a quand même écrit pas mal de textes. Et bon, là, à propos de Juan Manuel Molina, le texte que j'ai présenté, que j'ai repris, pardon, je vais y arriver, que j'ai récupéré là, est en fait celui donc de la, comment on appelle ça, la contre, non, la jaquette, oui, merci. Et en partie, c'est-à-dire que celui qui l'écrit, c'est en fait Fidel Miró, d'accord? Et je vous ai déjà dit, en fait, ils étaient très amis entre eux, hein, Fidel Miró, Juanel, bon, tout ça, c'était des grands amis de la guerre civile, puisqu'ils plus que de l'exil en fait. Ils étaient connus quelques ans en prison, d'autres donc à travers des activités clandestines. C'était plus des amis de cette activité clandestine, si vous voulez, que de l'exil réellement. Hein. Bien qu'en exil, bien sûr, ils se sont entraidés. Hein, et ça a créé des liens d'amitié exceptionnels. Bon, ceci dit, voilà ce que explique Fidel Milo à propos de ce livre. Et on a ici l'intervention de ce ministre, de ce président de la. C'est que je me suis trompée. Attendez. Quand je l'ai réécrit. Ministre, oui, bon, d'accord. Ministre de la République espagnole, Don Fernando Valera, qui disait donc le 29 janvier 1966, lors d'une conférence où il parlait de Camus, ceci. Los españoles deberíamos hacer con los artículos y los discursos que nos dedicara Camus un breviario de la dignidad humana, cuya lectura, además de reivindicarnos ante nosotros mismos, nos reconciliaría, a pesar de todo, con el resto de la humanidad, pues que todavía la humanidad es capaz de engendrar de vez en cuando hombres humanos como Albert Camus. ¿Sí? On voit ici cette convergence absolue de pensée. ¿Sí? Y precisamente ese breviario es el que ha recopilado y traducido nuestro querido amigo Juan Manuel Molina. ¿Sí? Signé donc Fidel Miró. On en rajoute un petit peu encore. Voilà. Et, donc il considère que ceci est le bréviaire de la dignité humaine. Que fait Juanel dans ce... Excusez-moi, moi je l'ai toujours appelé Juanel, donc c'est Juanel, c'était son nom de bataille, c'était son nom qu'on utilisait, Manuel Molina. Que fait Juanel, même sa petite fille Dalia l'a appelé Juanel, hein, il ne faut pas croire, et dans ce bréviaire, il a choisi... on va dire tout simplement, mais il a quand même beaucoup cherché, il a fait le choix des textes où Camus parlait de l'Espagne. D'accord ? Tous les textes où Camus parle de l'Espagne, Camus parle de l'Espagne libre. C'est pour ça qu'on adopte ce titre. Hein. En plus, il y a eu une publication qui s'appelait Espagne libre, hein, signée par Camus et d'autres auteurs. Oui, mais donc une série d'articles. Mais Juanel donc choisit concrètement ses textes dans les journaux, dans les conférences et même certaines lettres. Hein. Il y a donc ici aussi des documents inédits à cette époque-là, 1966, que Juanel recueille pour faire voir cette passion, on va dire, de Camus pour l'Espagne libre, hein, pour lui rendre cet hommage à cette manière, de cette manière. Donc, voilà, si vous voulez le faire passer, voilà, si vous pouvez le feuilleter un petit peu. Et ici, en haut à droite, j'ai mis cette illustration parce que c'est un livre qui est paru en 2013, et j'étais dans tout ce sujet-là. Yeps. Ah oui. En 2013, la maison d'édition, c'est l'édition Plataforma. Et justement, ça se voit pas très bien, ça s'appelle Breviario de la Dignidad Humana. Tu disais, mais c'est pas ça, hein? On l'avait déjà. Pourquoi est-ce qu'on en refait un ? Moi, ça m'avait beaucoup surpris, ça m'avait beaucoup intrigué quand on nous a présenté ça. Et bon, en fait, ça peut aussi être un bréviaire, c'est certain, puisque c'est des citations de Camus qui parlent, non pas de l'Espagne, comme c'est le cas dans l'Espagne libre, mais en général, de l'être humain, etc. Et on en a beaucoup. Camus avait une écriture très... aphoristique, donc on peut facilement retrouver des phrases comme ça. Et c'est une sélection, tout simplement, de citations de Camus sur l'être humain, hein, et sa dignité. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, ça peut être un ensemble de textes qui peut faire introduire Camus, par exemple, ça peut être utile dans ce sens-là. Mais sachez que ce n'est pas du tout la même chose, bien que ça s'appelle Breviario de la Dignidad Humana, ça n'a rien à voir avec l'Espagne Libre, qui, elle, était annoncée comme un bréviaire de la dignité humaine. Voilà, alors la personne qui fait la sélection, j'ai noté ici, c'est Elisenda Julivert, qui est une jeune étudiante, en fait, qui m'avait trouvé intéressant de le faire, et elle a trouvé aussi donc cette maison d'édition qui l'a encouragée à publier cette sélection de textes. Ce qu'écrit Juanel à propos de Camus, oui. Ça, c'est dans son introduction, donc dans le livre là qui est en train de circuler. C'est la même introduction est récupérée dans l'édition donc de La Linterna Sorda. Hein, c'est cette illustration que j'ai mise ici, celle de l'affiche. Et je crois qu'il parle très bien de par lui-même. Asociado a nosotros, los españoles, por las ideas y por la sangre, les deux. Hein. La sangre, c'est ce que je vous ai dit de sa grand-mère d'origine de Majorque, donc on va dire espagnole. C'est pour ça qu'on dit de Camus qu'il peut être proche des Espagnols par le sang. Mais je crois que le mot idée qui apparaît en premier lieu est beaucoup plus important. Et c'est là où il est beaucoup plus près des Espagnols. Mais enfin, c'est pas grave. Associado a nosotros españoles por las ideas y por la sangre, su madre era española de Baleares, con nosotros ha sufrido la tragedia de nuestra derrota, el calvario de nuestra emigración y el dolor inmenso de nuestro pueblo. Voilà les grands mots, hein, la derrota, el calvario. On revoit ici, on retrouve cette tristesse, cette douleur qu'on avait déjà évoqué tout au début, y el dolor inmenso de nuestro pueblo. Y con nosotros ha alentado los fugaces resplandores de nuestras esperanzas. Voilà aussi l'autre mot. C'est pas seulement de la douleur que nous présente Camus en parlant de l'Espagne, c'est aussi des espoirs qu'avaient vraiment tous ces gens-là. Ils disaient, bon, on va peut-être quand même arriver à quelque chose, non? Et c'est pour ça qu'on continuait à être actif, et c'est pour ça qu'on continuait à écrire. Inlassablement, comme Juanel, par exemple. Hein. Y en las páginas que siguen entre tantas, hay un acta definitiva de acusación al franquismo y un mensaje ardiente de estremecida adhesión a la España libre. Donc cette adhésion, c'est ici peut-être le mot-clé, non? Une adhésion totale de Camus à cette Espagne libre, rêvée, désirée, non? Espérée, on va dire. Alors, je ne l'ai pas mis non plus. Mais il y a, avant 1966, un autre événement important dans cette relation de Camus et l'Espagne, et c'est lorsque, en 1952, l'UNESCO décide d'accueillir l'Espagne comme membre, hein, de l'UNESCO. Et à ce moment-là, c'était une reconnaissance finalement du franquisme, une reconnaissance tout à fait officielle du franquisme. Et à ce moment-là, ben, Camus a été la seule voix qui a dit, ah oui, ben, puisque c'est comme ça, il était un des conseillers culturels, on va dire, de l'UNESCO, il a dit, moi, je ne rends plus de service à l'UNESCO, c'est fini. Et tout simplement, il a envoyé une lettre en disant, alors, puisque l'Espagne est acceptée dans l'UNESCO, moi, je ne veux plus travailler pour l'UNESCO. En gros, c'était ça. D'accord? Ce geste de Camus a suscité énormément de, on va dire, réponses de remerciements de la part de ces exilés espagnols. Il a eu énormément de lettres disant mais merci beaucoup pour avoir dit ça, avoir eu ce geste pour rappeler que l'Espagne actuelle est une Espagne donc d'une dictature qui nous a volé une Espagne libre, etc., etc. Et donc ces Espagnols étaient extrêmement reconnaissant à Camus d'avoir eu ce geste. Parmi les personnes qui écrivent à Camus, donc il y a tous les responsables politiques, syndicaux, etc., il y a un artiste important. Et j'aurais voulu mettre, j'ai oublié de la mettre, une transcription de la lettre de Pablo Casals, le violoncelliste. Pau Casals lui écrit en lui disant, voilà, merci, heureusement qu'il y a des personnes comme vous qui ont des gestes intelligents face à l'Espagne, alors que voilà, ce qu'on voit, c'est une sorte d'acceptation vraiment moche, on va dire, de la situation politique. Et Camus répond à Pau Casals en disant, alors que toutes les autres lettres qui étaient arrivées, ils répondaient un peu les deux mêmes lignes, merci beaucoup, mais c'est vous qui faites tout, moi je fais rien. En gros, c'était ça, pour toutes les lettres. Dans le cas de Pau Casals, non, il dit, votre lettre m'a beaucoup touchée parce que c'est la lettre d'un artiste. Et c'est ce qui m'arrive en tant qu'artiste aussi, et c'est là où je sens que les artistes pouvons avoir une voix qui peut se faire entendre. Non, c'est, bon, je trouve un dialogue intéressant entre artistes, entre Camus et Pau Casals, à propos de cette Espagne bafouée. Voilà. Et ça, c'était donc en plus de ces diapos. Et là, c'est un autre texte qui a été publié et donc réédité aussi par la Linterna Sorda, qui est un choix de texte aussi, qui ressemblerait peut-être plus aux bréviaires faits récemment, on va dire, La Sangre de Libertad. La Sangre de Libertad. Il n'y a pas d'article avant Libertad. La Sangre de Libertad. La Sangre de Libertad, c'est aussi un recueil de textes, d'articles de journaux essentiellement. Il n'y a pas eu tant de recherches pour les discours et pour les lettres personnelles, si vous voulez, dans ce cas-là. Mais c'est un texte qui est publié en 1960. C'est-à-dire, le projet existait déjà avant le décès de Camus. Vous savez qu'il est décédé en janvier 1960. Donc le projet existait déjà avant le décès, mais au moment du décès, le projet s'est accéléré. D'accord ? On a dit qu'il faut absolument, ils se sont dit qu'on sorte ça pour rendre cet hommage. Donc le principe est le même, si vous voulez, c'est une sélection de textes où Camus va défendre donc ses idées de liberté, etc., de démocratie, en particulier sur l'Espagne, mais pas seulement, et pas exclusivement sur l'Espagne. Donc, ils n'ont pas cherché des textes qui se rapportaient forcément à l'Espagne. Et ce que j'ai indiqué ici, c'est la présentation que fait Freddy Gómez. Alors, Freddy Gómez, qui c'est ? C'est le fils de un autre exilé espagnol important, qui était Fernando Gómez Peláez, pardon, c'est son père. Donc Fernando Gómez Peláez, le père de Freddy Gómez, était donc un autre libertaire important qui, par exemple, avait pendant plusieurs années dirigé la Solidaridad Obrera, ce journal donc, de ces exilés espagnols. Hein. Ils appelaient ça la Soli entre eux. Bon, enfin bref. Et Freddy Gómez explique très bien, voilà, que ce texte est réédité 55 ans plus tard, hein, et que jamais il n'avait été tenu en compte. Ça a vraiment été un texte oublié, La Sangre de Libertad. La Sangre de Libertad, c'est le titre aussi d'un article réellement de Camus, hein, donc qu'il récupère pour faire le titre du recueil. Et il y avait une confusion, à savoir qu'au moment où est imprimé le livre, la première édition, je ne l'ai pas, celle-là, et le nom du responsable donc, de l'édition et de la sélection de textes, c'est, le nom qui apparaît, c'est Fernando Gómez Peláez, c'est-à-dire le père de Freddy Gómez. Or, ben, c'est une erreur, hein, parce que c'est vrai qu'il avait travaillé, oui, je vous dis, ils travaillaient tous ensemble, ils se connaissaient tous, donc il avait travaillé pour avoir le droit de publier ses textes et leurs traductions. Donc il avait contacté Gallimard, etc. Mais il en avait traduit quelques-uns, c'est vrai aussi, mais il ne les avait pas tous traduits, ce n'est pas lui qui avait fait toute la sélection. C'était José Dot qui l'avait faite. Hein. Or, le nom de José Dot n'apparaissait pas du tout dans cette première édition. Et donc, voilà ce que dit ici Freddy Gómez. Heureusement, maintenant, on peut, grâce à cette réédition de la Linterna Sorda, on peut enfin bien remettre les choses à leur place. Et voilà. Donc ici aussi, j'ai participé à la présentation des textes avec la Linterna Sorda. Bon, ça c'est vrai. Et j'aime bien la conclusion de Freddy ici, où il dit du temps où il avait tenu sa place dans la longue cohorte des résistants libertaires de l'intérieur au franquisme. Le 5, je ne sais pas pourquoi il est là, mais c'est au prix du sang et de la liberté. Hein. Et comme quoi, dit-il, il faut encore et toujours faire parler les ombres. C'est sa conclusion. Et ça, j'aime beaucoup comme idée d'être toujours encore présent. On peut se remémorer, on peut faire parler ses ombres. Alors là, je ne sais pas si on peut l'entendre, ça dure 1 minute. Et c'est ce qu'on appelle le testament politique d'Albert Camus. On essaye, si je fais pim, ça devrait. Si je clique, on devrait. Alors, il faut que je fasse ma connexion à l'ENS. Ça s'est déconnecté. Ça, c'est les mystères de la technologie. Et je recommence peut-être.
Tu as une connexion
Oui, là, ça y est. Apparemment, on y arrive. Je sais pas, ça va pas être trop fort.
Sinon, je peux régler le volume.
Oui, d'accord, alors je le laisse à 100%. C'est pas très rapide, mais c'est bien, ça fait entendre la voix d'Albert Camus parlant des réfugiés espagnols. J'espère qu'on va y arriver. Actualiser là ou.
Ah, mais il est en train de nous charger, hein, de toute façon.
Ouais, faut attendre tout simplement. Ben, je sais pas si je peux continuer à
Oui.
avancer. On entendra la voix peut-être après. Voilà, donc j'avance. J'en ai fini avec les expériences donc desquelles je voulais vous parler. C'était ces textes de Camus que les exilés espagnols ont cherché à publier en version espagnole pour faire connaître cette voix de la littérature française, cette grande voix de la littérature française, aux Espagnols. D'accord? Maintenant, il y a d'autres textes. Alors, bien sûr, en rapport aussi avec Camus, donc, il y a ce texte de Maria Cazares, La résidente privilégiée. C'est vraiment un texte de mémoire. Vous savez qu'elle est donc fille de Santiago Cazares Quiroga, qui était donc un premier ministre de la Seconde République espagnole. Et il se rencontre donc chez le père de Maria Cazares, puisque Camus est allé voir ce premier ministre de la Seconde République espagnole. Il lui a rendu visite, hein, comme tel. Et voilà. Donc, Maria Cazares parle au début de son texte aussi des difficultés d'exprimer la douleur de l'exil. Elle en parle aussi très bien. Hein. C'est un texte bien écrit. Et en plus, elle explique qu'elle a voulu écrire elle-même, parce que beaucoup de gens disaient oui, elle a fait écrire, elle avait une secrétaire. Et apparemment, non. Elle explique là, c'est vraiment sa volonté d'écrire elle-même, parce qu'elle voulait vraiment pouvoir mettre sur le papier donc ses sentiments. Voilà, donc ça, c'est le texte de Maria Cazares. Un autre texte particulier que je voulais au moins vous nommer, c'est ce texte de Yahya Belaïskri. C'est donc un écrivain algérien, un écrivain francophone, comme on dit. Et ce texte, alors, qui s'appelle Une longue nuit d'absence. On ne voit pas très bien, non? Ah, si, un petit peu quand même. Une longue nuit d'absence, eh bien, nous parle justement d'un exilé républicain espagnol en Algérie. Et ça, c'est une histoire qu'on connaît très mal, en France en tout cas, et en Espagne aussi d'ailleurs. Et il y en avait quand même pas mal. Et il y en avait quand même pas mal. Et qui passent par des camps de réfugiés, qui sont détenus, qui sont maltraités, etc., etc., etc. Donc, c'est l'histoire de cet exilé. Et c'est une longue nuit d'absence parce que bon, ben, il est exilé de toute sa famille. Finalement, il réussit à faire venir sa femme. Enfin bon, c'est vraiment. Il était espion de la République espagnole, donc agent des services d'information de la République espagnole, le personnage dont Antonio Bajo. Et voilà, donc il parle de lui. Et. J'ai trouvé drôle de voir cette chanson que Yerkia Velasqui récupère pour introduire son texte. Non ? Adieu mon Espagne adorée, dans mon âme, je t'ai rentré. Eh bien, que je sois un émigrant, jamais je ne t'oublierai. Non ? C'est cette chanson de El Emigrante qu'il récupère ici pour introduire tout son texte. Voilà, l'émigration, l'exil, c'est ce qui apparaît dans ce livre. Et en plus de cette citation où il est question des fascistes, alors c'est un exemple vraiment de l'écriture de Yerkia, ce que j'ai mis là. Dans les villages, on pend aux arbres et le sang ruisselle sur les collines. Les poètes sont ensevelis avec des mots dans leur bouche éteinte. Les fascistes avancent sur les routes. Bon, je trouve qu'il a une écriture poétique de l'horreur absolument remarquable. J'aime beaucoup Yerkia pour ça. Et voilà. Donc, et puis j'ai repris ici un témoignage de lecture que j'ai trouvé aussi assez saisissant, qui dit que ce récit, je l'ai pris en pleine figure. Et c'est vraiment l'impression que ça donne, parce qu'on découvre plein de choses avec ce texte, et parce qu'il raconte donc la mémoire de mes grands-parents. Et là, donc, c'est apparemment un lecteur qui se sent très concerné. Mais ma tendre enfance n'a pas voulu l'entendre. Ça arrive encore beaucoup. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont eu des grands-parents qui ont été détenus ou qui ont été des espions, comme ici c'est le cas. Beaucoup de gens ne le savent pas encore en Espagne. Hein. Et en France, ils le savent encore moins d'ailleurs, parfois. Alors, ce livre vient me rappeler leurs paroles et aujourd'hui, je comprends. Comme Paco, Barro. Et comme Paco, ils ont fui leur Andalousie, mise à feu et à sang dans l'espoir d'une vie meilleure ailleurs. Le mot espoir qui revient ici. Je finis mes autres textes, et puis après on revoit si on peut écouter Camus. Celui de Lydie Salvaire, j'espère que vous le connaissez, « Pas pleurer ». Moi, j'ai été très choquée par ce texte-là, bien sûr par l'écriture. Et je me suis demandé, et je lui ai demandé quand j'ai eu l'occasion, mais comment ça se fait qu'un livre où il y a tant de pages écrites dans une autre langue que le français, c'est surtout de l'espagnol et puis parfois une sorte de mélange, non, français-espagnol, comment un texte comme ça peut avoir un prix Goncourt? C'est quand même une énigme, enfin c'était une énigme pour moi. Puis elle m'a répondu que non, qu'en fait les membres du jury avaient tous été d'accord, sauf Bernard Pivot. Bernard Pivot, apparemment, il voulait qu'il y ait des notes en bas de page avec les traductions des textes en espagnol. Mais c'était le seul. Et elle, alors justement, elle ne voulait pas qu'il y ait ces traductions en notes en bas de page. Pourquoi on lui demande? Et elle répond, justement, on va dire que c'est une technique littéraire. C'est une manière aussi de solliciter le lecteur. Il doit s'impliquer. Il ne comprend pas, il va chercher Google ou ce que vous voulez, les dictionnaires, vous vous débrouillez, mais vous cherchez à comprendre si vous voulez comprendre l'espagnol et que vous ne connaissez pas l'espagnol. Voilà. Mais c'est très bien, c'est vraiment une démarche littéraire intéressante aussi de sa part, et ça m'avait beaucoup plu de l'entendre dire ça. Et je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est comme une capacité, on va dire, d'innovation de ces enfants d'émigrés, quoi. Il y a quelque chose là, il y a une force qui motive à faire autre chose, à présenter autre chose. Et ça me plaît de pouvoir le présenter comme ça, bien sûr. Après, elle parle plus peut-être de la guerre civile et un peu seulement de l'émigration et de l'exil. Elle parle de la maman qui est exilée. Elle parle moins de l'exil que de la guerre, moi, je trouve, dans le livre. Mais bon, ceci dit, c'est quand même un bon livre à connaître. Et ici, c'est les deux autres références, c'est le même auteur, Antonio Tarriva. Ce sont donc des BD. Antonio Tarriva est l'auteur des textes. Et il était professeur de littérature française à l'Université du Pays Basque. Et il a pris sa pré-retraite dès qu'il l'a pu, parce que son truc, c'est écrire des textes pour BD. Voilà. Et en plus, il fait ça très bien. C'est l'Arte de Volar, donc l'art de voler, a eu d'ailleurs un prix. C'est comment ce festival de BD très connu, Angoulême. Et c'est un texte utilisé en France, beaucoup plus qu'en Espagne, pour parler justement de la guerre civile et de l'exil. Hein. Il retrace ici, pareil, il parle de son père. Et l'arte de volar, c'est toute la vie de son père, qui était voilà, fils d'un petit village d'Aragon et qui se retrouve pris comme ça par la guerre civile et qui émigre et qui s'engage, etc. Les camps d'émigration, enfin bref. Tout le périple de son père est ici dans El Arte de Volar. Et puis, El Arte de Volar, c'est de 2011-2012. Et l'année dernière, en 2015, hein, il a publié El Ala Rota. Ben, c'est la vie de sa mère. D'accord ? C'est tout à fait complémentaire. Parce qu'effectivement, dans El Arte de Volar, de la vie de son père, il parle très peu de la mère. C'est à se demander comment ça se fait d'ailleurs. Et ici, c'est vraiment donc, du point de vue de la mère. C'est une mère qui a un handicap. Et voilà, donc c'est la vie de cette mère qui souffre aussi des vicissitudes de son mari, etc. Enfin bref. Les deux références de Antonio Altarri, ben, je pense que c'était pour faire autre chose. Mais qui nous parle de cette vie en France et qui nous parle de ses contacts avec la culture et la littérature française. C'est pour ça que c'était pour moi aussi un rapport avec ce titre de Exilé et littérature française. Il parle comment ça là. Je vous dis, Antonio Altarriba était professeur catedrático de littérature française quand même. Donc il a été nourri aussi par cette littérature française et c'est ce qui en partie il explique dans ces textes-là. Donc voilà. Et voilà, donc on va essayer d'écouter finalement Camus, parce que je pense que ça fait un moment que je cause.
Hein. C'était sur Duorama, je crois qu'il ne marche pas dans cette salle.
Non, ce n'est pas Duorama, c'est l'invité.
Ah d'accord, parce que moi j'ai pu... c'était ça ou...
Le testament d'Albert Camus, ben oui, 1 minute 24, oui, ben voilà.
Donc si tu veux,
ouais.
Je peux reprendre je le reprends HDMI.
Oui, tout à fait. Voilà. Puis après, on écoute Camus et après, je vous fais une petite conclusion.
Je sais en tout cas, solitaire ou non, de faire mon métier. Et si je le trouve parfois dur, c'est qu'il s'exerce principalement dans la ces affreuses sociétés intellectuelles où nous vivons, où l'on se fait un point d'honneur de la déloyauté, où le réflexe a remplacé la réflexion, où l'on pense à coups de slogans et où la méchanceté essaie trop souvent de se faire passer pour l'intelligence. Je ne suis pas de ces amants de la liberté qui veulent la parer de chaînes redoublées, ni de ces serviteurs de la justice qui pensent qu'on ne sert bien la justice qu'en vouant plusieurs générations à l'injustice. Je vis comme je peux dans un pays malheureux, riche de son peuple et de sa jeunesse, provisoirement pauvre dans ses élites, lancé à la recherche d'un ordre et d'une renaissance à laquelle je crois. Sans liberté vraie, et sans un certain honneur, je ne puis vivre. Voilà l'idée que je me fais de mon métier.
Voilà. Voilà Albert Camus parlant de ses idéaux partagés avec les libertaires espagnols. C'est vraiment très émouvant, oui. Alors moi, ma conclusion, je reprenais Antonio Muñoz Molina, donc qui a écrit un très beau livre. Qui a écrit un très beau livre sur les débuts de la guerre civile à Madrid, qui s'appelle. C'est traduit hein, dans la grande nuit des temps. Et alors, mais justement, l'exilé dont il est question, il s'exile à New York aussi, ce personnage-là. Il en arrive à oublier comme un abandon. Et il abandonne pratiquement son passé, ses idéaux et même sa famille. Donc c'est vraiment l'abandon total de son passé. Et après, c'est vrai que plus d'un historien espagnol, en tout cas, et je pense à un historien que je connais, un historien local qui s'appelle Alberto Bau, par exemple, partage l'avis que 40 ans de dictature ont complètement effacé le souvenir, la mémoire de la République en Espagne. On ne sait plus trop ce que ça voulait dire, ça, une République en Espagne. Surtout qu'on a ce roi maintenant, hein, fils du roi d'avant. Alors, au vu des textes qui rappellent les exils et leurs traînées de douleur et de tristesse profonde, peut-être doit-on voir aussi, en plus d'une volonté politique évidente, une réaction en fait de survie peut-être à ces déchirements douloureux, dépeints magistralement d'ailleurs par Antonio Muñoz Molina, c'est un grand artiste, non, du détail, des sentiments. Peut-être alors doit-on encore apprendre à faire ce travail de mémoire au-delà des problématiques identitaires, on va dire, pour y retrouver plus de raisons de s'engager, pour préserver et oser vivre la liberté humaine, comme vient de nous dire Albert Camus, et tous ses corollaires. Et puis peut-être enfin, peut-on avoir la conviction, comme le dit aussi Lydie Salver, de n'être que très peu de choses sur Terre, mais au moins doit-on pouvoir savoir que personne n'est guère plus que nous. Hein, il n'y a peut-être pas grand-chose, mais on est tous pareils. Voilà, donc merci. J'espère que voilà, ça vous a intéressé. Et, merci beaucoup d'avoir été là.